midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. Ma mission, vous la connaissez chaque jour, vous faire découvrir des hommes et des femmes qui agissent pour faire bouger la France dans leurs entreprises, dans les associations, mais aussi les territoires. Aujourd'hui, gros plan sur un modèle qui plaît de plus en plus chez nous, c'est celui de la franchise, l'occasion de développer sa fibre d'entrepreneur au service d'un réseau. Elle existe depuis 1921, mais la petite librairie a bien grandi. Le Furet du Nord est aujourd'hui l'entreprise qui va bien, merci. Et puis vous connaissez le covoiturage, et si le principe s'appliquait aussi en bus, c'est Torisgo, et c'est la solution, c'est ça la France qui bouge, et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, venez, on vous attend. Anissa, bien sûr, vous avez la parole. Hein. Comme chaque midi, venez nous dire par exemple si la franchise est une solution à laquelle vous avez peut-être déjà pensé pour vous lancer dans l'entrepreneuriat.
Vous pouvez poser toutes vos questions aux invités de Raphaël Duchemin. N'hésitez pas, ça se passe maintenant au 39-21. Ça, c'est le standard d'Europe 1. Vous le connaissez par cœur, 50 centimes la minute. Et sur Twitter, on lit vos messages et vos témoignages avec le hashtag Europe 1.
Oui, vous allez voir que la franchise, c'est un modèle qui existe depuis longtemps et que de nombreuses enseignes que vous connaissez d'ailleurs se sont d'ores et déjà laissés séduire. Pour accueillir nos invités à mes côtés, comme chaque jour, elle est là, c'est Elisabeth Assayag. Bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et notre coach aujourd'hui, c'est Gilles Van Der Potten, le fondateur de Reporters d'Espoir de la France des Solutions. Bonjour Gilles.
Bonjour Raphaël, ravi de vous retrouver.
Nous aussi, on est ravis. Quand on pousse la porte de certains magasins, on sait qu'on est chez telle ou telle marque, mais on ne se demande pas forcément si l'enseigne en question est ou non franchisée. Vous allez voir que certaines le sont depuis déjà bien longtemps. C'est le cas de Fildar. Bonjour Jérémy Nathan.
Bonjour Raphaël.
Merci
bonjour à tous.
D'être avec nous. Vous êtes le PDG de cette marque que les Français connaissent. Hein, et vous avez été la première, Fildar, à appliquer en France ce modèle de franchise. Racontez-moi comment à l'époque le groupe Fildar, créé par Louis Mullier en 1903, décide de choisir ce modèle-là. Qu'est-ce qui se passe ?
Alors tout d'abord, un petit retour sur l'histoire. On a été créé en 1903, donc ça fera nos 116 ans cette année. Tout d'abord, moi je le résume en 4 étapes. La première, c'est tout simplement d'abord des industriels, une filature qui produit du fil, qui devient du fil à tricoter. Et puis une deuxième ère, c'est à partir de 1956 où on a vraiment un développement de la franchise, puisqu'on développe tout simplement un modèle de magasin. Le premier, pour l'anecdote, c'était à Poitiers, qui s'appelait au textile d'art, et puis après au fil d'art, et puis ensuite le fil d'art, comme vous le connaissez sûrement.
Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi la franchise ? Qu'est-ce qui a décidé finalement les créateurs de fil d'art à choisir ce modèle-là plutôt qu'un autre ?
Alors il faut savoir qu'à l'époque, on était dans un marché de masse. Hein. Si on voulait un pull chaud, pour des raisons économiques ou pour avoir chaud, il fallait le tricoter. Toutes les femmes savaient coudre et tricoter, hein, c'était même instruit à l'école. Et on était vraiment sur un marché qui parlait à tout le monde. Donc le premier test de magasin était tout simplement de formaliser un petit peu l'offre. Et puis tout simplement, ils se sont rendus compte qu'on pouvait, comme peut-être inspiré vieux aux États-Unis, dupliquer le modèle.
Oui, c'est ça, ça vient des États-Unis, cet esprit
de franchise.
En tout cas,
le format de reproduire un modèle de magasin, ça vient sûrement des États-Unis suite à une inspiration d'un des fils Mullier.
Dites-moi, le groupe, il s'est beaucoup étendu, hein, notamment dans les années 80. Je crois qu'il y avait quelque chose comme 2500 franchises à l'époque.
Oui, c'était un succès assez fulgurant, plus que sur la France et sur l'Europe, jusqu'à 2500 points de vente franchisés. Ouais.
Aujourd'hui, c'est beaucoup moins. Hein, on est sur 120 points de vente et 75 franchises. Vous avez revu les choses à la baisse ?
Oui, alors il y a eu déjà
une
autre étape intermédiaire, c'est qu'à partir de 1980, il y a une récession du marché de du tricot. Les femmes savent ou ne veulent plus tricoter, c'est l'émancipation de la femme. Alors c'est grâce à ça aussi. Hein.
Dans mon cas, vous pouvez dire ne savent plus. Hein.
Alors ne savent plus, c'est la génération qui n'a pas eu cette transmission
de savoir-faire.
J'ai essayé,
mais à part des écharpes, j'avoue que j'arrive pas.
Mais en tout cas, entre 1980 et jusqu'à 2012 à peu près, c'est l'ère de la diversification. Et nous aussi, on s'est mis à faire du prêt-à-porter grande importation. Avec justement tout ce que ça propose, de la layette, de la chaussette, même du fil d'arôme. Donc on a essayé plein de choses avant, hein, quand même, pour perdurer le plus longtemps possible, pour se réinventer. Et puis depuis 2012-2013, on s'est tout simplement recentré sur la maille. La maille à tricoter, c'est le do-it-yourself, et ça on pourra y revenir si vous le souhaitez. Ou la maille déjà apportée, c'est-à-dire du vêtement, en particulier le pull, qui est notre produit emblématique, déjà fait.
Que dit notre coach ?
Justement, vous l'avez dit, do it yourself, donc faire soi-même, c'est une mode. Enfin, il y a un vrai mouvement en France et dans le monde. Comment vous en tirez parti, justement ? Parce que a priori, c'est votre manière d'être. Enfin, c'est constitutif de fil d'art de faire soi-même.
C'est tout à fait ça, puisqu'on a toujours fait. Alors, pour moi, c'est pas une mode, c'est vraiment c'est une tendance durable.
Oui.
Pour deux raisons, parce que tout d'abord, c'est une recherche d'émancipation. Le fameux effet et la fierté, c'est moi qui l'ai fait. Ça marche vraiment tout le temps. Et puis, deuxièmement, c'est un acte authentique, c'est choisir son mode de consommation. Donc, on choisit vraiment de réaliser soi-même quelque chose. On cherche la matière, on sait de quoi ça vient, comment c'est fait, etc. Donc, c'est tout ce qu'on donne aussi dans cette tendance, pour moi, qui va durer au fur et à mesure des prochaines années.
Et est-ce que vous en tirez parti, par exemple, sur les réseaux sociaux ? Est-ce qu'on peut imaginer des youtubeuses ou de youtubeurs fil d'art, est-ce que ça existe ?
Alors, dans le cadre de la modernité de la marque, on fait énormément de choses, puisqu'on n'appelle plus un client, mais vraiment, on parle de communauté. On est vraiment sur le do-it-yourself à travers les réseaux sociaux. On fait aussi maintenant des ateliers avec l'esprit Café Tricot.
Alors, moi, je voudrais qu'on revienne à la franchise. Elisabeth, elle se porte très bien en France, la franchise.
Hein. La franchise envoie d'excellents signaux positif. Rien que l'année dernière, le cap des 2000 réseaux a été franchi. On est en progression de près d'1,5% par rapport à 2017. Il y a plus de 75 000 points de vente avec un chiffre d'affaires de plus de 62 milliards d'euros. La franchise, ça représente 700 000 emplois directs et indirects en France.
Jérémy Nathan, ça change quoi ? Un magasin fil d'art franchisé et un magasin fil d'art qui ne l'est pas. C'est quoi la différence ?
Alors, avant, c'était vraiment des purs indépendants qui achetaient, entre guillemets, le modèle, le concept et l'assortiment de produits. Aujourd'hui, la franchise, elle a quand même évolué. On parle vraiment de commissionner, d'affilier, c'est-à-dire on porte le stock. Et tout ça aussi pour le service aux clients, puisque
quand vous
maintenant...
Quand on porte le stock, c'est vous, le
c'est
groupe.
C'est Fildar, voilà. C'est-à-dire que même notre partenaire franchisé, eh bien, en fait, on lui pose le stock, tout simplement, lui met à disposition. Il y a depuis maintenant aussi un site internet qui représente quand même une part importante de nos ventes, puisqu'on est à 14%.
Ça veut dire que l'entrepreneur qui choisit la franchise, aujourd'hui, il se sent accompagné. Il est libre d'être à la tête de sa franchise, mais
tout
en revanche, il a la force du réseau derrière lui.
Alors, il a la force du réseau, la reprise des invendus, etc. Tous ces services sont en termes de logistique. Et puis, il a aussi le service sur l'air de consommer. On ne consomme plus de la même manière. On va d'abord sur internet. À 90%, nos choix sont plus ou moins prémédités par rapport à quelque chose qu'on a vu quelque part sur le digital, à travers un smartphone. Et nous, on est là aussi pour l'accompagner et lui générer un trafic aussi dans le magasin.
Elisabeth, qui est-ce qui se lance dans la franchise aujourd'hui ? On a une idée ?
Il y a un petit portrait robot. Hein. D'abord, 74% des franchisés sont d'anciens salariés qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et alors le franchisé, c'est un homme, il est âgé d'en moyenne 47 ans, il est diplômé et il va souvent tenter de créer sa franchise en couple.
Bon, on a quelques indications, on va poursuivre justement le portrait robot des franchisés aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h08.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et vous allez voir qu'il y a certains concepts qui sont faits pour la franchise. C'est le cas par exemple de Body Minute qui voit depuis les années 2000 le nombre de ses magasins pousser comme des champignons. A tout de suite.
La France bouge jusqu'à 14h sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. Nous découvrons le modèle de la franchise aujourd'hui. Raphaël, un moyen de se développer et aussi de se reconvertir. Vous y pensez peut-être ? Eh bien, venez poser toutes vos questions aux invités de Raphaël. 3921, c'est le standard. Hashtag Europe 1, c'est pour Twitter.
Oui, la franchise marche bien et certains ont vu dès le départ, dès le lancement du concept, que c'était un modèle à suivre. Bonjour Thibaut Castarède.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le directeur général de Body Minute. Je crois que c'est dans les années 2000 quand le fils de Jean-Louis David, Jean-Christophe David, se lance dans le concept beauté, qu'il décide pratiquement, quasi immédiatement, de choisir ce modèle de franchise. À l'époque, il n'y a quasiment personne sur ce créneau-là.
Alors c'est vrai, c'était en 98 exactement, donc ça fait 20 ans. Fort de son expérience de coiffeur et de la coiffure, prenant soin de la beauté des femmes, il s'était rendu compte que le concept des instituts de beauté était quelque chose qui était très éclaté et qui avait du mal à survivre.
Ouais, donc, il n'y avait que Yves Rocher qui était sur ce même créneau.
Et même Yves Rocher, les salons d'esthétisme ne sont pas son principal métier. Donc il a décidé en tout cas de pouvoir apporter aux femmes une nouvelle vision de l'esthétique, de réfléchir à des tarifs intéressants et surtout mettre en place le sans rendez-vous. Qui était quelque chose qui était très particulier, qui n'existait pas, puisque dans chaque salon aujourd'hui, il y avait des rendez-vous.
Donc il ouvre un premier magasin à Paris, dans le 17e. Et puis très vite, c'est du succès. qui est au rendez-vous. Les gens se pressent et ils se disent bon, bah, on va développer ce concept-là. On va aller un petit peu partout en région parisienne. Et puis aujourd'hui, vous êtes à 500 instituts dans toute la France. Et c'est forcément de la franchise.
Et c'est oui, c'est forcément de la franchise, parce qu'aujourd'hui, le développement, il se fait principalement en province, puisqu'aujourd'hui, avec 70 instituts de beauté à Paris, on a couvert le territoire. Et même en région parisienne, on en a 200, donc on est vraiment très, très implanté. Donc, la France, en province, c'est plus logiquement la franchise. Maintenant, quel est l'avantage de la franchise ? La franchise permet d'accélérer assez vite le développement, parce qu'avec 50 nouvelles ouvertures de points d'instituts de beauté, il faut aller vite. Ensuite, c'est un métier qui est assez qui demande en tout cas aux personnes de s'investir énormément, et il n'y a rien de mieux qu'une personne qui souhaite ouvrir son institut, qui puisse à ce moment-là se dire je m'applique dans le point de vente.
J'ai regardé, c'est ce qu'il dit effectivement. Il dit la force de la franchise, c'est que le porteur de projet qui vient s'investir avec vous, il est formé, il est accompagné, on le fait, sinon ça ne marche pas. Donc c'est pas la peine de venir s'il n'y a pas cette motivation-là.
S'il n'y a pas de passion, vous n'y arrivez pas.
C'est valable pour tout, pour la franchise et pour le reste aussi.
Oui, mais notre métier en tout cas, c'est un métier qui demande d'être assez présent, de s'investir énormément, et donc il faut vraiment que le sérieux, la passion, c'est en tout cas à chaque fois les traits qu'on recherche chez les prospects que l'on a pour trouver des franchisés. C'est indispensable.
Ouais, c'est la raison pour laquelle vous avez aussi monté votre propre école de formation.
Ça, c'est indispensable, parce que d'aujourd'hui, nous avons 50% des candidates à la franchise Body Minute qui ne viennent pas forcément qui ne sont pas esthéticiennes. Et donc, nous sommes bien sûr capables, à travers l'école, qui est au centre de Paris, de pouvoir former n'importe qui à ce métier.
Vous avez dit candidate. Elisabeth, justement, les femmes ont une place importante dans le monde de la franchise aussi.
Ah oui, ça change des autres secteurs d'activité, puisque près de 40% des franchisés sont des femmes. Et alors, tous les spécialistes s'accordent à dire qu'en créant leur affaire en franchise, les femmes, elles se lancent dans l'entrepreneuriat, elles peuvent maîtriser leur temps, elles peuvent mener de fond vie professionnelle et vie privée. Beaucoup plus facilement que si elles étaient salariées.
Gilles ?
Oui, la franchise et l'accompagnement que vous décrivez, j'imagine, ça donne confiance en soi, c'est des appuis assez importants. Je lisais même, par exemple, en termes d'efficacité de ce modèle, que vous étiez capable d'aider la patronne d'un institut traditionnel, en passant à Body Minute, de multiplier son chiffre d'affaires par 5 en quelques mois, en moins d'un an.
En moins d'un an, exactement, mais c'est en lui apportant toutes les techniques que l'on a sur notre métier de base, en profitant aussi de la publicité que l'on fait, car chaque année on dépense plus de 6 millions d'euros en publicité de manière nationale, de manière à pouvoir promouvoir la franchise, et le système de l'abonnement, avec près de 400 000 abonnés aujourd'hui clients fidèles chez Body Minute, on arrive facilement, en tout cas, à multiplier par 5 le chiffre d'affaires.
Elisabeth.
Et quand vous parlez de budget publicité, les franchisés doivent mettre de l'argent dans ces cas-là, ou ça fait partie du, entre guillemets, du deal de départ ?
Ça
vous
fait partie du
de la com et...
Ça fait partie du deal de départ et du contrat qu'on a avec elle. On réinvestit chaque année 50% du profit que l'on fait sur les produits que l'on met dans la publicité nationale.
Donc vous êtes une sorte de filet de sécurité pour ceux qui se lancent avec vous ?
Oui. Oui, on peut le dire comme ça. C'est vrai qu'on les accompagne. Dès qu'on ouvre un point de vente, on sait parfaitement ce qu'il faut faire, en tout cas pour se faire connaître. Ça fait maintenant, au bout de 500 points de vente, nos échecs sont inexistants. Et effectivement, on leur donne des méthodologies très précises, de manière en tout cas à lancer l'institut. La première année, on part de 0 abonné. Et normalement, au rythme de 50 abonnés par mois, on arrive très rapidement, au bout de la première année, à arriver à 600 abonnés, qui sont les clients fidèles.
Il y a des gens qui sont aujourd'hui franchisés avec vous et qui ont tenté d'autres expériences ailleurs et qui vous ont dit finalement, ce modèle-là me convient mieux. Et si oui, pourquoi ?
On peut avoir des gens qui ont d'autres franchises. Maintenant, en tout cas, puisque vous citiez les femmes, notre franchise, elle est exclusivement féminine et notre clientèle est aussi exclusivement féminine. Donc, s'il y a des couples qui décident d'avoir d'autres franchises, oui, ils le font. Maintenant, c'est sûr qu'en tout cas, à chaque fois, ces gens-là, normalement, font plusieurs Body Minutes.
Elisabeth,
à quel
un petit
moment
mot.
Est-ce que vous avez déjà décidé de stopper une franchise avec une personne, avec un entrepreneur ?
Ça nous est arrivé. c'est un vrai échec.
Oui,
c'est
quelque j'imagine, chose que, mais ça arrive.
Ça peut arriver si la personne ne respecte pas le concept. Et on a des choses qui sont très importantes dans le concept. Notamment, je vous ai cité...
Une charte, finalement.
Une charte, et si elle reçoit des hommes dans l'institut. Si elle ne respecte pas les éléments clés du concept, si elle refuse de faire des aménagements qu'on a à faire ensemble, la décision au bout de la 7e année du contrat de franchise... peut-être inéluctable, et on peut le faire. C'est un vrai échec, parce que normalement, on les accompagne, ces franchisés, tout au long de ces 7 années, et on ne peut pas arriver à la 7e année en se disant « constater l'échec ». Normalement, il est vu avant.
On reste ensemble, on continue à parler franchise aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h18.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et si justement la franchise était une étape pour opérer un changement de vie, c'est ce que croit la créatrice de la plateforme reconversionfranchise.com. Elle est avec nous dans un instant. A tout de suite.
La France bouge tous les jours de 13h à 14h sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. Nous découvrons la franchise. Aujourd'hui, c'est un moyen de se développer, c'est aussi un moyen de se reconvertir. Vous avez peut-être fait ce choix-là. Venez nous le dire au 3921, le standard d'Europe 1 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1 Raphaël.
Et vous serez d'accord pour dire que devenir entrepreneur, c'est quelque chose qui n'est pas inné. Alors, pour accompagner ceux qui veulent se lancer dans la franchise, une plateforme a été inventée. Bonjour Corinne Jiquel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est vous qui l'avez fondée. C'était il y a 3 ans déjà. Qu'est-ce qui vous a vous donné l'idée de vous mettre sur ce créneau? Vous êtes aperçu que c'était, comme on l'a dit déjà, un modèle qui marchait de plus en plus en France?
Alors, à l'origine, je travaillais pour des marques. Des enseignes sur leur marketing, leur communication. C'est vrai que je me suis vite aperçue que les franchiseurs étaient en quête de candidats à la franchise. Et puis en parallèle, en côtoyant différents réseaux, je me suis aussi aperçue qu'on venait vers moi en me disant « je cherche à changer de vie, je suis en quête de sens, et c'est quoi la franchise, comment ça fonctionne ?»
D'où reconversionfranchise.com.
Voilà, d'où reconversion en franchise. Et mon idée, c'était de dire « il n'y a pas que Paris, il y a aussi les territoires ». Votre émission, elle tombe bien. Et du coup, j'ai eu l'idée de créer des journées dédiées à la création en franchise en région, avec des chambres de commerce, des prescripteurs comme le Pôle emploi et bien d'autres, des associations. Et l'idée, c'était de rassembler le temps d'une demi-journée des porteurs de projets, des institutionnels et des franchiseurs pour parler de façon très pratico-pratique de la franchise. Ouais. Et puis, le thème de l'entrepreneuriat féminin est arrivé.
Alors justement... Être entrepreneur, je l'ai dit dès le départ, hein, ça ne va pas de soi. C'est quelque chose qu'il faut avoir chevillé au cœur et au corps. Vous aidez ceux qui ont cette envie-là, mais ça n'est pas fait pour tout le monde. Donc, comment est-ce qu'on peut être entrepreneur en franchise? C'est peut-être le chemin vers l'entrepreneuriat, vers voler de ses propres ailes.
Alors, en fin de compte, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, beaucoup de salariés, je crois que c'est
74%
voilà, de salariés qui sont aujourd'hui franchisés. La création en franchise, elle ne vient pas comme ça spontanément. Les gens ont envie d'être entrepreneurs, mais ça veut dire quoi d'être entrepreneur? Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, comme tout le monde ne peut pas être franchisé. Donc il y a une démarche que chacun doit faire, et puis se renseigner et être accompagné.
C'est quoi les grandes étapes?
Les grandes étapes, c'est déjà, monsieur, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est... qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me motive tous les jours? Ou qu'est-ce que j'ai envie de faire comme métier qui va me passionner et qui va faire que tous les jours, je vais y aller? Après, c'est pour quel métier je suis fait? Et l'idée, si on s'intéresse à la franchise, c'est se découvrir ce modèle, comme vous l'avez dit, qui s'appuie sur une marque, un savoir-faire, une formation et qui aide à entreprendre. Mais il faut être déjà entrepreneur. Après, c'est est-ce que j'ai les ressources? Est-ce que mon entourage va me suivre? Donc, il y a plein de questions à se poser. Avant de se dire franchise ou pas, j'y vais quoi.
Oui, parce que la franchise, c'est aussi, et on l'a dit, avoir l'expérience d'un réseau derrière soi, parfois même être parrainé par les anciens franchisés. C'est le cas avec une des enseignes avec laquelle vous travaillez, Temporis, hein, c'est ça?
Temporis, qui est une enseigne de travail temporaire et qui offre la possibilité à ses salariés, s'ils le souhaitent, eux-mêmes de devenir des franchisés. Mais ce n'est pas les seuls. Il y a beaucoup d'enseignes qui, comme ça, comme Attila, avec qui je travaille aussi, qui est dans le monde de la maintenance de toiture, ou d'autres métiers, de pouvoir accéder à la franchise.
Notre coach?
Oui, vous avez dit que c'est un investissement humain que de devenir franchisé, mais c'est un investissement financier aussi. J'imagine qu'il y a différents modèles de franchise, mais parfois, il faut un petit capital pour
investir. Souvent même.
Mais... Oui. C'est sûr. En fin de compte, on ne peut pas partir en franchise, je pense que vous me rejoindrez, sans apport. Même pour la banque, il faut au moins 30% de l'apport pour sécuriser le banquier, sécuriser aussi le franchiseur. Et puis c'est important, quand vous allez dans la franchise de service, c'est un fonds de roulement, donc on ne peut pas... Et puis, un entrepreneur sans argent, ce n'est pas possible, quoi.
30% du ticket d'entrée.
Oui.
30% du ticket d'entrée. Et ce sont les seules garanties qu'on demande, justement, aux franchisés, ou il y en a d'autres ?
Alors, je pense que...
Qui sont communes, hein, j'ai envie de dire, à toutes les franchises.
Oui, je pense que ça dépend... Je préfère que vous puissiez répondre, parce que ça dépend aussi des franchiseurs, de leur métier, de leur concept.
Oui, c'est pour ça que je vous demandais celles qui étaient communes. Hein. Effectivement, après, il y a des variantes, évidemment,
des variantes
en fonction des franchises.
Voilà.
Elisabeth, il y a quoi comme franchise aujourd'hui ? Sur quel secteur alors, on peut trouver de la franchise ?
Alors, vous avez dans les commerces spécialisés, il y a pas mal d'offres. Par exemple, Montsouffleur, La Grande Récré, donc Montsouffleur pour les fleurs, La Grande Récré pour les jouets, Golf Plus pour les passionnés de golf. Vous avez des secteurs qui recrutent dans la mode, hein, des enseignes comme Sergent Major, Fazer & Son, Esprit, dans la restauration aussi. Il y en a beaucoup comme chez Hippopotamus, Buffalo Grill, Bio Burger et dans l'automobile, chez Norauto, Speedy. On recrute pour se lancer dans la franchise. Et si ça vous intéresse, eh bien vous allez vous connecter sur le site observatoiredelafranchise.fr. C'est extrêmement bien fait. Là, en 2019, vous avez chaque secteur d'activité qui recrute avec le nom de l'enseigne.
On reste ensemble et on continue à parler franchise aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h26.
Europe 1, si Raphaël Duchemin.
Et on vous attend, 39-21. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à nos invités. Ils sont là, ils vous écoutent. C'est la France qui bouge.
La France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. On parle de franchise aujourd'hui. Un moyen de se développer, un moyen de se lancer. Vous avez des questions, c'est maintenant que vous pouvez les poser au 39-21, le standard d'Europe 1. Et sur Twitter avec le hashtag Europe 1, Raphaël.
Elisabeth Sayag est à mes côtés. Notre coach aujourd'hui, c'est Gilles Vanderpotten, directeur de Reporters des Sports et de la France des Solutions. Nous sommes avec Jérémy Nathan, PDG de Fildart, Thibaut Castaret, directeur général de Body Minute, et Corinne Jiquel, fondatrice de la plateforme reconversionenfranchise.com. C'est vrai qu'on se demandait quels étaient les points communs entre les différentes franchises qui sont représentées ici, mais aussi les autres. Est-ce qu'il y a finalement des points communs, Thibaut Castaret, qu'on retrouve chez tous les franchisés ?
Le point commun, c'est que c'est une affaire que les franchisés montent toutes seules. Elles sont obligées d'apporter leur financement, d'aller chercher leur financement. On les aide là-dessus, mais c'est comme elles qui doivent aller chercher un financement. Elles sont obligées d'arriver avec un apport personnel qui, on l'a cité, mais entre 20 et 30% du financement. Pour un Body Minute, l'investissement minimum, c'est 150 000 euros, ce qui fait qu'il faut avoir un vrai apport personnel. Et l'engagement, il est pris sur la personne. Donc le seul point commun, c'est que c'est des gens qui montent leur entreprise et elles en sont responsables.
Jérémy Nathan.
Alors à cela, moi j'ajouterais que surtout dans notre domaine, il y a le côté passion qui joue pour beaucoup, puisque c'est cette passion qu'elles vont transmettre au quotidien, au bout du compte, avec leur clientèle.
Corinne Jiquel.
Et puis elles adhèrent à une marque, un savoir-faire qu'il faut respecter. Et en fin de compte, ça devient des ambassadeurs de la marque. Voilà. En fin de compte, c'est un partenariat, comme je disais tout à l'heure, gagnant entre un franchiseur et un porteur de projet qui est indépendant surtout, hein, qui est vraiment un indépendant et un chef d'entreprise en local.
Je regardais, le boom, c'est notamment en matière d'équipement à la personne, hein, sur les franchises. Vous dites, il y a des secteurs qu'on ne soupçonne pas en franchise,
Corinne. Oui, c'est vrai. Alors, il y a des secteurs dans les services auprès des entreprises, comme la surveillance, comme le coaching, l'externalisation du management d'entreprise, ou encore du coaching pour le développement personnel ou la formation. Il y a une variété, même pour le canin aussi, pour former, pour aider les familles à gérer leurs animaux domestiques. C'est un truc de fou, quoi.
Et puis, il y a les grandes enseignes qui s'y mettent de plus
et
en plus, Elisabeth.
Et oui, de plus en plus, par exemple, la Fnac et Darty. Tiens, par exemple, la Fnac, droit d'entrée entre 12 195 euros, je suis très précise, à 19 818 euros selon la zone d'implantation. Vous avez le choix. Vous pouvez implanter une sorte de Fnac en périphérie d'une ville, hein, sous un format classique, ou un format proximité avec environ 250 000 références, ou encore dans les gares ou dans les aéroports. Oui. Donc, vous avez le choix de développer, par exemple, un réseau comme la Fnac ou encore Darty.
Je regardais, les banques ont tellement bien compris que c'était un modèle qui fonctionnait qu'elles ont créé, en tout cas les cinq plus grandes ici en France, des pôles département franchise. Et l'entrepreneur, quand il est franchisé, il a plus de chances forcément d'être suivi dans son financement. Ça, c'est aussi important à signaler à ceux qui ont envie de se lancer, hein, Thibaut Castaret, Jérémy Nathan.
Il faut... Le rôle du franchiseur est important. C'est sûr que quand vous avez la chance d'avoir une enseigne qui a très peu de défaisance, il y a très peu de dépôts de bilan, les banques vous suivent très facilement. Mais c'est vrai que nous accompagnons pendant tout le processus du prêt bancaire, nous accompagnons les franchisés pour être sûr qu'elles puissent obtenir auprès des différentes banques au meilleur taux possible. Mais il y a plein d'autres choses d'ailleurs aussi derrière le taux. Il y a aussi tous les à côté qu'il faut mettre en place.
Jérémy Nathan.
Moi, j'aurais dit en plus qu'il y a l'aspect fonctionnel, on va dire, la franchise, oui. Mais il y a aussi la reconnaissance du client. Aujourd'hui, un client, il a une multitude d'informations. La reconnaissance d'une marque est vraiment capitale et donc rassure du coup le banquier plutôt qu'un lancement d'indépendant, même pour une même activité.
La prise de risque est différente pour le banquier aussi.
Mais oui, parce qu'il y a une reconnaissance dans la marque ou dans le modèle. Alors que de l'autre côté, on part un peu sur l'inconnu.
Gilles ?
Oui, Madame Jiquel, en allant sur votre site, j'ai cru comprendre que vous adressiez exclusivement aux femmes. Il se trouve que vous trois, vos activités, parce que vous êtes fil d'art, Body Minute, s'adressent essentiellement aux femmes. Alors j'imagine qu'il y a aussi des hommes qui sont usagers de fil d'art, peut-être de plus en plus. Mais vous, sur votre plateforme, vous accompagnez exclusivement des femmes.
Pourquoi
ce choix ?
Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup sont venus vers moi, que j'ai commencé à faire des journées rencontres sur l'entrepreneuriat féminin, qui a eu un boom sur ce thème, parce que beaucoup d'associations sont mobilisées, l'État est mobilisé, il y a des aides à la création d'entreprises, des fonds de garantie pour les femmes, qui peuvent aider justement dans le cadre d'un investissement en franchise. Et puis beaucoup de femmes sont en quête de sens, on en a marre d'être salariées et cherchent à développer une activité pour elle-même.
Elisabeth ?
Vous disiez tout à l'heure que vous les accompagnez. Ensuite, par exemple, tout ce qui est pendant le suivi, la comptabilité par exemple de l'entreprise, elle est externalisée, c'est vous qui avez un œil dessus ou ils doivent se débrouiller, celui qui se lance dans la franchise doit faire sa propre compta, son propre bilan, comment ça se passe ?
Est-ce que ça dépend des enseignes ?
Parce qu'il faut s'y connaître.
C'est très simple, elles sont totalement responsables de toute la partie évidemment, comptabilité et finances.
C'est
leur modèle économique et c'est elles qui le font. Elles sont aussi responsables de la partie ressources humaines, qui est une des parties les plus importantes, en tout cas, dans cette partie-là. Maintenant, on les met en relation avec des grands cabinets d'experts comptables et elles peuvent, si elles le souhaitent, adhérer à ces cabinets si elles le veulent. Mais on n'a pas de regard sur leur comptabilité.
Ce sont de vrais entrepreneurs.
Oui. Exactement.
Même chose pour vous, chez Fildar.
Il y a quand même l'accompagnement des responsables régionaux. Donc, c'est des personnes qui sont salariées chez nous et qui vont visiter tous les points de vente et qui vont faire le point sur l'activité, la tenue du magasin. Et une fois dans l'année, on va peut-être parler un petit peu chiffres, un peu plus bilan. Mais c'est vraiment de l'accompagnement et en aucun cas une ingérence.
Corinne Jekyll.
C'est ça qu'elles viennent chercher. C'est une solution clé en main pour ne pas partir d'une feuille blanche, partir d'un concept et être suivi par un animateur de réseau. Qui vont les coacher et les booster pour développer leur activité. Voilà.
Et je vous redonne le chiffre, hein, plus de 50 000 en 2008, nombre de franchises, plus de 75 000 aujourd'hui. Preuve qu'effectivement, c'est un modèle qui fonctionne bien. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui
Merci.
Sur
Merci.
Europe 1.
Merci.
Il est 13h35.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Restez avec nous. Au départ, c'était un magasin, puis une imprimerie. Aujourd'hui, le groupe Furet du Nord compte 31 points de vente. C'est l'entreprise qui va bien. Merci.
Europe 1.
Et jusqu'à 14h, la France bouge avec Raphaël Duchemin et ses invités. Il est temps de découvrir l'entreprise qui va bien. Merci. Aujourd'hui, elle est française, comme tous les jours. Elle a 83 ans et elle est très célèbre. Vous la connaissez tous si vous lisez.
Oui, cette entreprise, elle nous raconte des histoires. Et aujourd'hui, c'est la sienne dont nous allons tourner les pages. Bonjour Pierre Courcière.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du Furet du Nord et de Citre maintenant, puisque vous venez de les racheter. Furet du Nord, au départ, on va rembobiner le fil. C'est 1921, c'est Lille, c'est un magasin.
C'est un magasin, c'est également qui vend du livre, qui vend aussi de la papeterie, qui fait un peu d'imprimerie. Enfin voilà, plein de choses qu'on faisait à l'époque quand on s'occupait de livres.
Et ça s'appelle Furet du Nord parce qu'il y a une tradition dans la région.
Alors c'est ce qu'on dit, on n'est pas sûr de ça aujourd'hui. Mais
en tout cas, c'est l'histoire. On aime bien raconter l'histoire. La tradition, c'est la chasse.
La chasse
au furet.
Absolument, avec les furets.
Alors, quand tout commence, la librairie grossit, elle va, vous l'avez dit, avoir sa propre imprimerie. À l'époque, on est toujours avec le créateur, un certain Georges Pollard, c'est ça ?
Oui, même un peu avant, puisque c'est une Madame Morel qui, en 21, a créé l'entreprise Furet du Nord. Elle se déplace ensuite en 59 sur la Grand Place. Là, c'est à ce moment-là que Paul Callens, qui en a pris la direction quelques années auparavant.
Années 50, c'est ça ?
C'est ça, années 50. Et c'est là que vraiment, il la développe très fortement avec l'esprit d'entrepreneur qui était le sien et qu'on essaie de garder.
Oui, Paul Callens qui était le vendeur au départ et qui a racheté.
Paul Calin s'était employé et à un moment où il a racheté l'entreprise, il a racheté la librairie qui était dans une petite rue derrière la grande place de Lille. Et en 59, il a profité d'un emplacement sur la grande place pour y arriver sur un tout petit espace. Et ensuite, progressivement, il a racheté tout ce qui était attenant et qui en a fait l'immense librairie qu'il y a aujourd'hui sur 4 700 m² de surface de vente.
Oui, il va donner de la visibilité au Furet du Nord, il va la faire grandir, il va l'installer effectivement comme incontournable dans la vie des Lillois. Et puis, il va ouvrir aussi de nouveaux rayons, faire venir des auteurs, commencer les dédicaces. Il sent les choses.
Paul Calin, c'était un entrepreneur formidable qui a développé plein de choses, qui a inventé plein de choses. À l'époque, il a inventé le premier rayon livre de poche. C'est un des premiers à faire des dédicaces et faire venir des auteurs dans les magasins. C'est un des premiers à avoir pensé au fait qu'on ne devait pas vendre des livres derrière un comptoir. Enfin bref, il a inventé la librairie moderne. Et on essaie de rester dans ces gènes-là.
Et alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que dans les années 80, on passe d'une entreprise familiale à une société anonyme. Et puis elle va être rachetée entre-temps. Elle va se mettre avec Butler Capital Partners. Pourquoi tous ces changements? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, la famille, dans les années 90, a décidé de vendre l'entreprise, ce qui arrive régulièrement. Ensuite, elle est passée aux mains de divers actionnaires pour à un moment rentrer dans le groupe Lagardère.
Oui.
Et de ce fait être une des filiales de Virgin, Virgin Megastore. En 2008, l'entreprise s'est détachée de Virgin, quand justement Butler Capital Partners a acheté l'ensemble, et c'est moi qui ai piloté le décrochage de Virgin. Et à partir donc de 2008, on a pu prendre notre envol et mener notre propre stratégie. Qui manifestement nous a un petit peu plus réussi qu'à Virgin.
Oui, parce que vous dites aujourd'hui, on reste une maison régionale. C'est ça l'ancrage, c'est ça notre façon de fonctionner, notre cœur finalement.
Notre cœur est là. On est une entreprise régionale qui aujourd'hui a vocation à devenir nationale. Mais nous n'oublions pas notre base domestique qui est le Nord-Pas-de-Calais. Dans le Nord-Pas-de-Calais, un livre sur deux est vendu au Furet du Nord.
Que dit notre coach?
Je m'intéresse à votre stratégie. Bon, vous avez des librairies physiques, mais vous avez aussi des librairies en e-commerce. Et de plus en plus, d'après ce que j'ai compris, puisque vous venez de racheter le leader, enfin, ou un grand acteur français de
site.com.
Est-ce que c'est une manière d'être présent sur Internet et aussi d'aller sur le secteur des bases de données qui est incontournable aujourd'hui? Enfin, qu'est-ce qui guide cette stratégie de diversification?
Nous sommes vraiment ancrés dans la librairie d'aujourd'hui et surtout de demain. Aujourd'hui, si vous voulez faire du commerce dans le livre, mais pas que, il faut pouvoir digitaliser l'entreprise et il faut pouvoir avoir un outil Internet fort et bien développé. C'est ce qu'a fait Decitre. Decitre a développé depuis fort longtemps des outils digitaux, en particulier un site internet Decitre.fr, mais également une marque blanche qui sert d'autres clients et d'autres acteurs du retail en livre. Et en achetant Decitre, nous allons bénéficier de tout leur savoir-faire pour Furet.com existe aujourd'hui, mais pour que Furet.com puisse être encore plus puissant demain à côté de Decitre.fr et d'autres sites.
Oui, parce que Decitre, c'est aussi, et on l'a pas dit, on va le préciser, c'est aussi un ancrage régional au départ, hein, c'est la région de Lyon.
Decitre, c'est le Furet du Nord de la région Rhône-Alpes, donc voilà, on s'est mariés entre pairs.
Oui, c'est pour garder justement cette proximité, c'est indispensable dans la tête des lecteurs.
En tout cas, nous avons racheté une entreprise qui est notre petite sœur en Rhône-Alpes. Nous sommes quasiment centenaires, eux le sont depuis quelques années, puisque Decitre a 111 ans. Donc voilà, c'est toute cette expertise, cette passion mise au travers de nos magasins dans le Nord et en Rhône-Alpes et à Paris maintenant.
Suite, c'est le niveau national, vous l'avez dit.
On y est de facto. Puisque oui. Le Furet du Nord a ouvert 4 magasins en région parisienne. Mais une belle marque n'a aucune raison de se cantonner dans une région en particulier. Et c'est vraiment ce mariage de deux pairs qui font qu'on va demain continuer à se développer et surtout ancrer une librairie moderne sur des bases de librairie ancestrale. C'est tout le challenge, et plus qu'un challenge, alors tout le plaisir que l'on aille à le faire.
Et on va vous suivre dans ces nouveaux chapitres. Merci d'être venu nous parler des Furets du Nord. C'est l'entreprise qui va bien. Merci aujourd'hui.
Merci. Il est 13h46. Europe 1.
Raphaël Duchemin.
Vous voulez faire du co-déplacement? Eh bien, ça existe en bus aussi. La solution s'appelle TourisGo. On la découvre ensemble dans une minute sur Europe 1.
La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités. Et juste avant 14h, Raphaël, il est temps de découvrir la solution du jour. Et aujourd'hui, elle va plaire à tous ceux qui aiment se balader et faire des voyages.
Après le covoiturage en voiture, évidemment, pourquoi pas le covoiturage en car? C'est la solution, Elisabeth. C'est TourisGo, une start-up qui propose des places dans des autocars qui voyagent.
Oui, l'idée c'est de vendre des dizaines de milliers de places libres, parce que c'est le cas, dans les autocars qui circulent à vide après avoir par exemple déposé une équipe de sport à un aéroport ou un groupe de touristes. Au moment où le car revient, vous l'avez peut-être déjà remarqué, il n'y a plus personne à l'intérieur. Donc cela va permettre de fluidifier des lignes déjà existantes, notamment pour les trajets aéroport-grande ville. La plateforme TourisGo a été mise en ligne en septembre et c'est l'idée d'une seule personne. Il est ancien chauffeur de car.
Bonjour Adrien Méran.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de TourisGo. Comment est-ce que vous est venue justement cette idée? C'était une évidence?
C'était une évidence. Effectivement, en étant conducteur de car, à chaque fois que je prenais mon véhicule, je faisais toujours un trajet à vide, alors plus ou moins long. Quand je faisais du scolaire, c'était je déposais les enfants à l'école et je revenais juste au dépôt. C'était quelques kilomètres, une dizaine, 20. Et il y a des trajets beaucoup plus longs. Et c'est vrai que ça me paraissait évident. Dans l'actualité, enfin avec la loi mobilité qui se dessine et tout ça, de proposer cette solution-là.
Alors cette solution, donc les cars repartent à vide, vous intervenez à ce moment-là, comment ça se passe?
Alors en fait, ce sont les transporteurs, les autocaristes qui vont indiquer sur la plateforme leur trajet qu'ils font à vide. Nous, on va faire TourisGo va s'occuper de faire la promotion, d'en faire la publicité.
Pour pouvoir avoir des passagers.
Exactement. Et les passagers qui sont intéressés vont pouvoir s'inscrire, réserver leur place et la payer sur TourisGo ou sur un comparateur, parce qu'on est, aussi avec des comparateurs de bus partenaires. Donc, vont pouvoir réserver directement. Et nous, on va faire le lien entre les deux. On va s'occuper de leur préparer leur voyage, la liste des passagers, etc.
Avec un prix unique?
Alors, le prix, il est au kilomètre.
Donc,
c'est un prix unique, si on veut, pour tous les transporteurs. Il n'y a pas de différence d'un transporteur
et
à un autre.
Pour le passager?
Pour le passager, ça va être au kilomètre. C'est vraiment un prix qui est au kilomètre. Si vous faites... Alors, le prix, il est public, hein, il n'y a pas de secret. Mmh. C'est 1 euro plus 4 centimes du kilomètre. C'est-à-dire que si vous faites 100 kilomètres, vous allez payer 5 euros. Si vous en faites 200, vous allez payer 9 euros. Ça permet, étant donné que ce sont des trajets à vide, ce sont de l'optimisation de car, d'avoir des tarifs qui sont vraiment très compétitifs par rapport à ce qui existe déjà, par rapport au car Macron notamment. On va être à peu près 30% moins cher. Et par rapport au covoiturage classique, le covoiturage voiture, on va être à peu près 50% moins cher.
Alors, il y a un intérêt pour les passagers, il y a un intérêt pour le transporteur, voilà. Pour le conducteur. Est-ce qu'il sera accompagné, mais va-t-il gagner un peu plus
Normalement, il est payé. Tout pendant qu'il roule, il est payé de toute façon. Mais après,
C'est plus sympathique de voyager à plusieurs.
Exactement.
On peut se reposer en même temps.
Voilà.
Que dit notre coach?
Je me demandais quel était votre défi numéro un. Est-ce que c'est, comme toute plateforme communautaire, à un moment donné, d'avoir suffisamment d'usagers et donc d'inscrits sur cette plateforme? Vous en êtes où de ce point de vue-là?
Alors là, on a, au jour d'aujourd'hui, on a quasiment 200 partenaires en transporteurs qui mettent donc des trajets plus ou moins régulièrement en fonction de leur activité, j'allais dire. Et on est au tout début, hein, on a commencé, on va dire, en début octobre, on a transporté à peu près 500 passagers. Voilà, pour le moment.
Donc, ça commence. Donc 500 inscrits sur votre plateforme?
Voilà, en tant que passager. Ouais.
C'est un service qui est développé partout en France?
Oui, effectivement. Ouais. Alors, c'est avec tous les transporteurs français. Ça peut être des trajets frontaliers. Mm-hmm. Mais après, ce ne sont que des transporteurs inscrits en France.
Pour l'instant, en ce moment, vous êtes justement en train de lever des fonds.
Oui.
Vous en êtes où?
On est au tout début. On est en train de monter tout ce qui est dossier, tout ce qui est administratif.
C'est compliqué.
Allez-y, hein, profitez-en. Si vous avez un appel à faire, c'est le moment.
Oui, après, on est ouvert à toute proposition, ça c'est clair. Il y a beaucoup de choses à développer, il y a une application à développer, il y a beaucoup de publicité à faire pour se faire connaître, il y a énormément de choses à faire et il faut énormément de moyens pour le faire aussi. Donc, voilà.
Mais ça démarre, puisque ça a démarré en septembre, c'est donc tout nouveau, ça s'appelle TourisGo. Merci d'être venu nous en parler, vous nous tiendrez au courant
bien
pour
sûr.
Nous dire comment ça fonctionne. Nous, on va remercier notre coach.
Merci à vous.
Bonjour. Bonjour moi. À bientôt.
Et bonjour Raphaël.
Bonjour Elisabeth.
Et à demain.
Comme ça avant.
Oui. Bonjour. Bonne journée.
Demain, vous savez quoi? On parlera des allergies.
Ah, formidable, un vaste sujet.
C'est la saison.